Alors le thème de la distance est né de, bah, justement de la rencontre avec Véronique lorsqu'on s'est vu pendant les grandes vacances avant son arrivée ici. On était parti sur des idées un peu différentes. La première thématique, c'était orchestrer le vide, parce que par rapport à son travail, il y avait cette idée de viser l'univers, ce grand vide, et de, finalement d'y trouver des langages et du sens. On était parti sur cette thématique, puis on s'est dit que orchestrer le vide, c'était peut-être un peu trop abstrait comme formulation. Et donc on a essayé de le raccrocher à une notion ou un concept qui était plus ouvert, donc à distance, effectivement, capter des sons à distance, capter un langage à distance. Et on considérait que c'était une thématique qui était très parlante par rapport à sa démarche et qui permettait aussi d'accueillir tout un cycle de rencontres et de conférences. C'est ce qui va se produire pendant les 15 jours du festival, du 18 au 29 novembre, avec une conférence par exemple de philosophie qui s'intéresse aux identités virtuelles, à l'heure d'Internet, à la question du désir à l'heure d'Internet, sur des sites de rencontres. C'est un philosophe qui s'appelle Marc Parmentier, spécialiste des mondes virtuels, qui viendra nous parler de cette séduction en quelque sorte à distance. On a également une conférence d'histoire de l'art sur la distance en peinture par Madame Hainaut, conservatrice du musée. Bref, pendant 15 jours, on a différentes interventions autour de ce thème qui permet d'associer au travail artistique, à la démarche de l'artiste, une approche pluridisciplinaire convoquant l'art, la géographie, l'histoire, la littérature, la philosophie, qui permet en même temps d'avoir un éclairage, une autre compréhension de son travail artistique, du travail artistique présenté ici, une ouverture culturelle et intellectuelle à la fois pour les étudiants qui sont ici dans cet espace Bizet et en même temps pour la population qui est invitée à y participer.
Alors, l'idée, c'est d'impliquer les élèves, les étudiants dans l'organisation de ce festival, dans la réflexion artistique aussi autour de ce cycle. Comment ça s'est passé? Comment les élèves et les étudiants ont travaillé cette fois-ci?
Alors les étudiants, pour cette deuxième année de l'être-lieu, parce que l'être-lieu et son acte de naissance est juin 2012, hein, donc on est une jeune association. Pour cette deuxième saison, pour cette deuxième année, on s'est restructuré, je dirais. Alors évidemment, les élèves d'art plastique de prépa et de lycée sont évidemment très impliqués dans le suivi de l'artiste en résidence, puisqu'il y a vraiment eu des rencontres. Mais on s'est aussi associé avec d'autres professeurs en anglais, en littérature, en histoire, de façon à créer, particulièrement le mercredi après-midi, des pôles autour de ces différentes disciplines, avec des professeurs qui sont volontaires, qui ambitionnent de faire participer les élèves à la fois dans la rédaction d'articles pour le journal qui est distribué le soir du vernissage, mais aussi pour l'organisation des conférences qui ponctuent en fait ces événements. Donc d'une origine qui était plutôt centrée sur les arts plastiques, on a désormais une ouverture beaucoup plus grande où les élèves, effectivement, même des élèves anglicistes ou des élèves de littérature ou d'histoire, de spécialité, rencontrent aussi l'artiste. Donc pour eux, c'est quelque chose d'original, un peu inédit. Et en même temps, essayent de trouver un écho dans leur matière ou leur discipline de prédilection. Et on se rend compte que dans les sciences humaines, évidemment, toutes ces disciplines sont interagissent, connectées, et chacune propose un point de vue original. Donc sur à distance, je pense par exemple aux élèves de M. Bourgeois qui ont travaillé sur les frontières mexicaines et avec les États-Unis, et qui est une question politique qui est directement en lien avec notre thème et qui fait également écho au travail artistique de l'artiste. Donc on est vraiment dans cette idée d'une programmation très ouverte, très en interaction en quelque sorte, et les étudiants ont évidemment un rôle à jouer à la fois dans l'élaboration, l'initiative des conférences, dans la rédaction des articles, mais aussi dans l'accueil du public, puisqu'on se veut centre culturel pour une durée limitée dans le temps, hein, sur 15 jours. On accueille le public, on fait des visites guidées, les étudiants se sont inscrits, ils deviennent véritablement médiateurs de cette programmation parce qu'ils ont suivi le travail de l'artiste, ils en ont une réelle compréhension et ils peuvent justement le partager, ils deviennent eux-mêmes pédagogues en quelque sorte, ils peuvent le partager au public qui nous rend visite pendant ces 15 jours.
justement l'un des autres paris de ce lieu culturel, c'est de l'ouvrir à un public plus large, les Arageois et ailleurs, sachant qu'il y a cette contrainte physique que c'est dans un lycée, donc pas forcément le lieu le plus ouvert de la ville. Comment ça se passe ça? Est-ce que le pari est toujours... est-ce qu'il est gagné ou est-ce que c'est encore un travail à long terme?
Non, c'est vraiment un travail à long terme, c'est véritablement notre ambition, c'est notre pari qui est finalement, vous l'avez bien saisi, très très complexe. Un établissement scolaire, c'est aussi une forme de forteresse, hein, ce qui doit protéger les élèves qui sont à l'intérieur. On ne peut pas laisser l'établissement grand ouvert à longueur de journée pour des questions de sécurité, de responsabilité. Et donc imaginer un centre culturel dans un établissement, ça signifie de penser des scénarios d'accueil, toute une organisation, des plannings pour rendre cette ouverture possible. Alors évidemment, on pourrait se dire qu'un centre culturel aurait beaucoup plus de liberté en étant à l'extérieur de l'établissement, puisqu'on pourrait avoir une autonomie. Mais nous, on veut s'appuyer justement sur la force de ces étudiants, sur leur enthousiasme, sur leur dynamisme. Et de leur permettre aussi d'être dans une véritable formation en médiation culturelle, en accueil du public. Donc on a à la fois une force et on a en même temps une faiblesse. On essaye d'éviter qu'à certains moments la porte de l'établissement se retrouve fermée et que pour certains spectateurs il puisse y avoir une déception d'avoir trouvé porte close. On essaye d'évoluer, parfois ça dépend aussi d'astuces, je dirais, d'accueillir le public véritablement à l'accueil, de l'accompagner, etc. Il y a tout un projet. Il est évident que pour l'association Lettres Lieux, son projet aura réussi le jour où on pourra être ouvert le week-end. On pourra être ouvert pendant les vacances scolaires. Pour ça, il nous faut encore évoluer, il nous faut des soutiens, à la fois financiers, parce que les étudiants n'ont pas une très, très grande disponibilité, donc ils ne sont pas forcément là le week-end ou pendant les vacances. Donc pour qu'on puisse aussi s'appuyer sur des gens qui puissent assurer cette médiation. Donc là, il y a un travail à faire particulier. Donner aussi un accès à l'espace Bizet, ce lieu d'exposition, qui soit beaucoup plus direct par rapport au boulevard Carnot ou sur la rue adjacente. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont à construire de manière à favoriser cette ouverture que l'on souhaite.
Dernière question, on est dans un contexte où les établissements scolaires finalement sont presque en concurrence les uns contre les autres. Et du coup, chacun met en avant peut-être ses atouts. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement ce lieu est aussi utilisé comme un peu une vitrine du lycée ?
Oui, c'est une vitrine du lycée, totalement assumée. Et dans ce sens, ce projet ne peut pas exister s'il n'y a pas un appui politique et une vision concernant un projet culturel. Le proviseur, M. Speck, a fait le choix de réhabiliter ses anciens ateliers qui auraient pu être abandonnés, en quelque sorte. Les réhabiliter, les repeindre, les aménager. Voilà, c'est un vrai choix, c'est un vrai choix politique. L'association s'est créée dans le même mouvement, je dirais, hein, dans la même dynamique. Hein, c'est une intention commune. Mais il est bien évident que ce projet ne peut pas exister sans cette volonté du chef d'établissement, qui correspond pour lui, évidemment, au projet d'établissement, hein, une ouverture culturelle, une ouverture à la culture pour tous, un engagement citoyen des étudiants, un mieux vivre ensemble dans un établissement. Ce sont des objectifs pour le chef d'établissement. Et donc ce projet culturel, ce centre culturel y répond. Et de la même façon, pour l'être lieu, ça lui permet d'avoir un lieu qui a de très très grande qualité et de permettre de développer ses projets artistiques et culturels. Donc on est intimement associés, on a une vision commune, même si en fonction de nos rôles respectifs, chacun perçoit un intérêt, je dirais, par rapport à ses missions. Moi, je suis enseignant, donc mon objectif, c'est donc d'enseigner, de permettre à mes élèves d'acquérir une expérience artistique, de leur permettre d'avoir une formation aussi culturelle. Et donc l'être-lieu joue cette carte. Voilà, on a des intérêts évidemment communs, mais je dirais qu'au-delà de ces intérêts professionnels, il y a aussi ce qui nous relie, un vrai sens à donner à la culture sur le territoire arrageois, un vrai plaisir à travailler avec des artistes, à accueillir des écrivains. Et voilà, donc c'est un projet véritablement global et associé.